We always thought alien life would come from the stars. But it came from deep beneath the Pacific.
What the hell is going on?
Les podcasts de Doc. Pantatus.net.
Fungloui, les poulpettes et les poulpes, une fois n'est pas coutume, c'est assez étrange d'ailleurs, j'ai l'impression d'avoir déjà vécu ce moment il y a quelques semaines, nous enregistrons un nouveau poulpcast. Quand je dis nous, non pas que ma plénitude cérébrale fait que je me conçois comme une personne multiple, mais non, car ce soir nous sommes, non pas un, non pas deux, mon cher Fox, car
et
Fox
non, est là. Et je suis encore là, I am back.
Putain, on n'aurait pas dû réveiller les papis de Toc depuis qu'on les a sortis de la tombe, maintenant il lâche plus le micro. Et oui, Toc, car nous avons ce soir un terrible invité. Son nom fait frissonner les plus rompus de Jessica Fletcher à Colombo, voire, pour être plus exact, à Sherlock Holmes. Car oui, ce soir, nous avons Moriarty en plus. Comme si j'ai mis un peu la pression, il va être obligé de faire une voix vachement caverneuse. Salut Moriarty.
Salut à vous.
Vous avez vu ? Il y a une voix caverneuse. Donc, on vous présente Moriarty. Donc, on te présente Moriarty. Bah, c'est le pseudo que t'as sur Toc.
Exactement, c'est mon pseudo.
Et c'est donc toi qui t'es... Oui, pardon ?
C'est le pseudo que j'utilise très souvent. J'ai bien aimé la série Sherlock où Moriarty est très bien. Voilà, c'est le personnage, c'est le méchant par excellence pour moi, le Moriarty.
Alors moi, Moriarty, c'est con, mais je me rappelle dans Phileas Fogg, tu sais, le Tour du Monde en 80 jours, le dessin animé, là, c'était un chien. mais je t'en veux pas, hein. Mais c'est, moi, l'idée que j'en ai, c'est le mec avec son grand manteau et son écharpe et son haut de forme avec une tête de chien.
Mais oui.
Après, moi, il y aura un loup, très juste. Dans la série Sherlock, il est sympa, d'ailleurs. Donc, un peu déjanté.
Oui, ouais, tout à fait.
Décalé, j'aime beaucoup ce décalage. Qui est avec le personnage du roman, le personnage de la
série. Ah oui, dans la série, là, en 6 épisodes, la super série, là.
Ouais.
Oh, il est dément, son personnage. Putain, il fait frissonner, quoi. Ah, franchement, il est super bon. Et oui, car amis toqueuses et amis toqueurs, ce que vous vous doutez maintenant qu'on discourt depuis quelques minutes sur le pseudo de Moriarty, c'est que ce poolcast numéro, je crois, 26, hein, quand même, va être dédié à 1890. Et pourquoi dit-on 1890 et non pas Gaslight ? Car il est enregistré du fait de la prochaine sortie des 4592 pages et 9000 pages d'annexes de la prochaine parution de Sans Détour en 20 tomes et en 36 fascicules.
Ça fait mais ne lisez pas le soir, parce que si vous en avez, vous vous pétez le nez. Ouais.
Tu sais, c'est le truc que t'achètes, tu sais, toutes les semaines, et puis au bout de 10 ans, t'as une encyclopédie. Je dis ça en rigolant, mais j'ai une encyclopédie de l'astronomie comme ça. Donc en effet, c'est pour la sortie des 3 volumes plus l'écran que nous faisons cet enregistrement. Et car nous sommes tous les 3 de férus amateurs de 1890, qui s'appelait donc avant Gaslight. Je sais pas, tiens, un petit sondage, vous deux, vous avez encore la boîte Gaslight ?
Oui.
Non, mais pas.
Tu l'as pu, Moriarty ?
Non, je l'ai plus. C'est pour ça que je suis relancé sur la nouvelle version.
Ah ouais, mais... Car nous sommes les rois du teasing sur Toc, nous n'allons pas encore parler de la sortie jeu de rôle. Nous allons commencer ce podcast, alors ça en fera peut-être deux, hein. Mais nous allons le commencer avec... attendez, je vois qu'il y a Seb qui se connecte. Tu es en podcast, je peux me joindre à vous pour écouter. Mais bien sûr, c'est un peu comme chat roulette. Vas-y, on est tous tout nus. Non, je lui envoie pas. Alors, je vais rajouter Seb à notre petite confrérie. Hop, normalement, je devrais pouvoir y arriver en faisant ça. Voilà. Donc, Seb, je vais te rajouter. Donc, oui, nous allons partager ce podcast en deux podcasts. Bonsoir, Seb.
Bonsoir à tous.
Voilà.
Salut.
Bonsoir, Seb. Donc, si tu veux voir la tête de Vonve, hein, mais ça va pas servir à grand-chose, sauf quand je partagerai... quand je partagerai les choses. Si tu veux intervenir, faut pas hésiter. Tu es là en tant que spectateur, mais si tu veux intervenir de façon presque intelligible et ô combien académique, car sur Toc, nous vérifions toutes nos sources. Non, je déconne. Faut pas hésiter à filer ton grain de sel. Donc, un premier podcast qui va être dédié aux inspirations. On va essayer de parler un peu de l'ambiance, des inspirations. Et un second qui sera plus dédié au jeu de rôle. Notamment ce qui est déjà sorti et ce qui va sortir. Si vous suivez d'ailleurs ce podcast en direct, je partagerai sur une petite URL les PDF qui m'ont été envoyés de la prochaine édition de 1890, donc des trois bouquins plus l'écran qui vont sortir. Donc, nous allons débuter par un petit tour d'inspi. Et comme à mon habitude, comme les choses ne sont jamais préparées, je vais faire un rapide tour de table. Et je vais vous demander, en ayant pour obligation de prendre un autre mot que votre prédécesseur, de décrire en un mot, bien sûr, l'époque 1890. Donc je vais commencer, car je suis le maître de cérémonie. Et comme je vais prendre le mot le plus courant, ça vous emmerdera et vous serez obligé de chercher un autre mot. Et donc moi, mon mot pour désigner l'ambiance 1890, ça va être brouillard. Et je vais passer la parole à Fox. Un mot pour décrire l'époque Gaslight ?
Moi, métallique.
Métallique ? Ah, intéressant. Ouais. Et toi, Moriarty ?
Moi, je dirais découverte.
Découverte ? Ah, c'est cool ça. Bon, allez, Seb, tu peux encore parler, vas-y. Un mot pour décrire 1890.
Londres.
Ah. Donc on a brouillard, métallique, découverte, Londres. Ah, c'est pas mal, hein. C'est assez sympa, je trouve, comme croisement d'idées. Donc, parce que la première question que vous allez vous poser, c'est pourquoi jouer en 1890, alors qu'on joue déjà en 1920, et qu'on est à 30 années d'écart. Eh bien, première chose, enfin, après, on n'est pas des historiens, de toute façon, j'ai pas vocation à l'être, et peut-être qu'il y en a qui, parmi nous, hein, parmi nous quatre, qui connaissent mieux l'affaire que moi, mais déjà, 1890, on n'a pas eu la Grande Guerre, et que je me trompe pas, on n'est pas encore vraiment au début de l'ère industrielle. En 1890, c'est vraiment les balbutiements, non ?
Oui, c'est le début de l'ère industrielle, 1890. Parce qu'il y a le chemin de fer, il y a quand même des usines, c'est quand même assez... une ère où il y a quand même un développement industriel important dans les années 1920, quand même.
D'accord. Puis en plus, alors, autant 1920, 1930, on lui attribue facilement l'époque un peu des grands aventuriers ou enfin des choses comme ça. Mais toi, Moriarty, t'as dit aussi découverte, car 1890, enfin l'ambiance 1890 Gaslight est aussi un peu caractérisée par ça, ce côté un peu invention, découverte, mystique, tout ça.
Non, oui, exactement. Enfin, moi, quand je disais aussi découverte, c'est que je pense que 1890, ça ne se limite pas non plus juste à Londres et à l'Angleterre. Ça peut se passer dans le monde entier, sauf que c'est le début des grandes découvertes, justement, les grandes explorations, les colonies anglaises, tout le début de tout ce qui est donc exploration, découverte de lieux brûlés, civilisation perdue.
Ouais.
C'est ça aussi.
Oui, c'est vrai qu'il y a à côté, il y a toute cette partie un peu, je dirais, on essaie peut-être de mettre les mythes à l'épreuve de la réalité, parce que on commence à pouvoir se déplacer plus facilement et tout ça, et on commence à communiquer plus facilement.
C'est vrai que l'aventure, c'est bon, Livingstone, c'est juste avant, ça doit être dans les années 1870, mais ça montre bien un peu l'esprit, je crois, de cette époque. Effectivement, comme tu le dis, la remontée du Nil jusqu'aux chutes Victoria, des choses comme ça, c'est, bon, on est un peu après, mais on est dans cet esprit-là, ouais, c'est le monde perdu d'ailleurs de Conan Doyle.
C'est ça qui est assez intéressant, c'est que autant finalement l'ambiance 1920 va être très teintée Belle Époque, je dirais l'industrialisation et puis les changements de mœurs, la musique, tout ça. Autant 1890, c'est marrant, hein, une connotation très un peu sombre, un peu découvreur, mais en même temps mystique. Il y a une notion, enfin c'est, je sais pas, il y a, ça embarque un certain, il y a un côté, un peu, je dirais la population est un peu, pas, j'allais dire dévolu, non pas dévolu, mais qu'est-ce que je voulais dire comme mot ?
Disons qu'en fait, les populations de cette époque-là, enfin, surtout modernes et européennes, sortaient un peu de l'obscurantisme, un petit peu, justement en dépassant leurs frontières, en inventant de nouvelles technologies.
D'accord, oui.
Le chemin de par exemple, qui a été aussi, tu vois, dans l'Ouest américain, qui a été la découverte des terres inconnues, etc. Il y a les créneaux.
Ouais, on est vraiment au début des découvertes, ce que tu disais, ouais, partout.
Ouais, donc, ouais. Et puis, moi, Metallica, parce que c'est un peu dans le même sens, c'est que je vous rappelle, la Statue de la Liberté, c'est 1889. Hein. Du moins, la Tour Eiffel, ça doit être 1889, et la Statue de la Liberté, c'est juste un petit peu avant, me semble-t-il. Donc,
Donc, oui, c'est vrai que oui, en plus c'est l'exposition universelle.
Ouais,
très juste.
Et donc c'est une époque où on a construit des choses énormes. Hein. J'ai regardé sur 1886 la Statue de la Liberté. Hein, donc et quand on lit les bouquins de Jules Verne, etc. On a ce sous-marin, le Nautilus. Moi, je vois un gros truc métallique avec des bois, etc.
Et ouais, c'est le truc qui fuit un peu avec les gros boulons et tout. C'est quand même le mec qui pour t'envoyer sur la Lune te fout dans un canon, quoi.
Ouais, c'est voilà.
tu te dis là. Et alors c'est très bien parce qu'on va quand même commencer à se plonger un peu dans ce qu'il fera. Alors on vous fera la liste hein, comme d'habitude sur la page de Toc. On va se lancer directement dans les inspirations. Et en effet, la première inspiration romanesque qu'on a prise, c'était notamment Jules Verne. Bon bah là il y a alors c'est assez intéressant parce que si on couvre j'irai les trois premières inspirations qu'on donne, ça va être Jules Verne, Sherlock Holmes et Bram Stoker. Donc vraiment c'est assez intéressant, c'est vraiment trois pans complètement différents. Là, Jules Verne c'est vraiment la découverte, le scientifique et tout ça. Sherlock Holmes on connaît et puis Bram Stoker c'est Dracula, et puis Frankenstein de Mary Shelley, des choses comme ça. Donc vraiment trois aspects très très différents. Alors je sais pas si vous avez déjà lu du Jules Verne.
Oui, plusieurs d'ailleurs. Moi j'ai adoré, c'est des purs romans d'aventure. Hein.
Alors je dirais que c'est un peu comme moi, ça me fait un peu penser à Asimov. C'est des choses qui sont tellement bien décrites, mais de façon assez vague pour que tu arrives à les calquer sur notre époque. C'est-à-dire que voilà, Asimov, il va te dire il appuie sur un bouton iridescent, un peu surgissant, rougeâtre, machin. Donc hop, bah, aussitôt tu te fais une image un peu mentale. Et je trouve que Jules Verne, c'est un peu aussi l'idée. Tu vois, c'est ça, il te décrit le Nautilus. Tu te mets pas dans la tête l'idée d'un vieux truc.
Ouais,
tu te mets dans la tête l'idée d'un truc, tu sais, avec des gros boulons, des trucs de la vapeur qui sortent. Vas-y, envoyez-moi, comme ça. Enfin, je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que ce sont des.
De toute façon, Jules Verne a été vu un peu comme un visionnaire dans son écriture. Hein.
C'est un truc de fou. Hein.
Ce qu'il écrivait, c'était des choses qui vont se passer beaucoup plus tard. Bon, les sous-marins, ça existait plus ou moins pendant la guerre de sécession. Mais c'était pas non plus les machines phénoménales qu'on peut s'imaginer, c'était à mon avis ça devait être vraiment des casques sous-marines.
Attends putain, c'était des cercueils des cercueils amphibies quoi.
C'était tout simplement un tonneau avec une paille.
Bon les gars, vous pouvez retenir votre souffle combien de temps? Ok, bon bah on va y aller. C'est exactement ça. Et alors
il y a une vision très futuriste des choses en fait. Le voyage en ballon,
Et alors ça c'est des idées géniales pour alors c'est pas forcément facile à jouer pour les joueurs, mais c'est des idées géniales de scénario.
Ah oui, ça
c'est monter dans un truc, enfin en plus il y a un côté un peu sympa que vous pouvez faire comme dans des films, on va en parler plus tard, mais le côté un peu savant fou, c'est-à-dire que vous montez dans le truc, mais le ballon il descend alors que vous êtes au milieu des rhinocéros, il remonte et puis il redescend alors que vous êtes au-dessus d'une chute d'eau, vous vous dites putain, on va tout s'y passer. Puis en plus, pas juste le petit ballon avec la petite nacelle, quoi, le truc vivable et tout, avec des hublots tout moisis, je sais pas, tout crade et tout, où tu peux ouvrir de temps en temps, puis il y a des oiseaux qui passent, enfin pour moi, les scénarios. Alors après, ça oriente des scénarios un peu, de découverte et tout ça, mais comme vous êtes censé aller dans des régions qui n'ont jamais été visitées, vous pouvez tomber sur tout n'importe quoi, quoi.
Oui, voilà, c'est ça, c'est la totale découverte de choses complètement inconnues des hommes à cette époque-là, en fait. Voilà.
Ce qui peut donner un gros ressort scénaristique, c'est-à-dire que, par exemple, bêtement, vous montez dans un ballon et tout, il y a toute la presse et tout, ouais, super et tout, ils vont en ballon, vous traversez et tout, et vous arrivez dans un endroit où il n'y a que des goules. Bah, vous n'êtes pas obligé censé savoir que ce ne sont pas des êtres humains. Vous pouvez vous dire, les premiers qui ont vu les Maasai ou les mecs qui sautaient sur leurs pieds, là, machin, et qui se bouffaient entre eux, ils se sont peut-être dit, putain, on a raté notre jet de scène, où est-ce qu'on s'est arrêté? Bah, je veux dire, à mon avis, il y a aussi ce côté-là pour jouer sur le fait que, vous n'allez pas leur faire découvrir. Je sais pas, un endroit où il y a que des rejetons d'azatotes, quoi, mais le truc, ce serait plutôt de se dire, essayer de prendre des êtres humanoïdes, de peuple serpent, des choses comme ça, tu sais, vous arrivez dans la broussaille et puis il y a un espèce de type avec un...
Ou les chocho, tiens.
Voilà, exactement, les chocho. Les mecs à moitié à poil tout zarbi, comme dirait l'autre dans...
Alors rien que le fait de leur faire rencontrer des dinosaures comme dans Le Monde Perdu, c'est déjà impressionnant pour des explorateurs du 19e siècle. Et c'est la présence de ces dinosaures peut être liée à des continents comme Mu, etc. Donc ça peut renvoyer sur le mythe. Ça peut renvoyer sur le mythe, etc. En fait, sur l'Atlantide, des trucs comme ça, en fait.
Ouais, et puis dans la description, tu peux être un peu vague, tu peux dire ouais, il fait un peu humain, mais pas complètement et tout. Il ressemble un peu à un dinosaure. Ouais. À part qu'il a des tentacules à la bouche. Non mais c'est pas du tout une mauvaise idée ce que tu dis. C'est essayer de jouer sur l'ambiguïté et sur le fait que à cette époque-là, il découvre des choses qu'on ne connaît pas, quoi.
Oui, et en plus, il y avait aussi dans cette époque-là le principe de l'éther. Hein, c'était une sorte d'énergie magique entre guillemets qui était utilisée par les sorciers, enfin pas les sorciers, les magiciens du 19e siècle. En fait, dans certains rôles, on parle de l'éther, surtout dans les jeux steampunk, etc.
Et
cet éther, en fait, c'est une sorte de magie ou de dimension qui peut être
C'est vrai que c'est un truc qu'on n'a pas du tout dit dans cette première phase, c'est que, d'ailleurs ils le disent dans Toulouse 1890, c'est que on est vraiment dans la pure période du spiritisme et de l'occultisme. D'ailleurs, Aleister Crowley...
Aleister Crowley, si je voulais dire, ouais, l'Aube Dorée, c'est là. Ouais,
d'ailleurs, j'ai une petite anecdote sur Aleister Crowley, qu'on connaît essentiellement pour son côté occulte, etc., et la Golden Dawn. J'ai découvert par une autre activité que c'était aussi un grimpeur précurseur dans son époque.
C'est vrai.
Ouais. Et ce qui est extraordinaire, ça c'est pour la petite anecdote, il y a dans une auberge en Angleterre, dans une région qui s'appelle Lake District, donc une région un peu montagneuse, il a écrit, donc il a fait un guide d'escalade. On retrouve avec une dédicace et ça c'est le top dans un scénario. Quand j'ai redécouvert ça, je me suis dit, on fait rencontrer Aleister Crowley dans une situation où on l'attend pas. Les types, ils sont dans une auberge, ils vont faire de la randonnée. Il rencontre un type qui est en train de s'amuser à grimper sur des petits cailloux et il commence à sympathiser, etc. et machin et tout. Et là, t'as une accroche qui change de l'héritage.
C'est forcément le grand méchant.
Ah bon, après, les investigateurs peuvent croire qu'ils vont l'emmener une aventure qui va les emmener très très loin, peut-être aussi.
Je suis pas sûr qu'ils laisseraient prendre la tête de cordée, je pense. Genre, votre nom me dit quelque chose et tout. Donc, alors ça, c'est assez
sympa. Tu dis, le mec, il donne pas son nom, tu vois, c'est Aleister, un nom assez commun. Il sympathise et tout, et il les emmène dans un trip un peu étrange. Et qui, outre cette activité d'escalade ou de randonnée sympathique, tu les fais basculer totalement dans un truc de fou. Et c'est, en plus, ça part sur une accroche véridique, historique. Donc moi, je me verrais bien faire une petite partie comme ça autour de ça.
Ça, c'est cool parce qu'en plus, alors, je pense que vous l'avez aussi tous les deux, le document avec nos notes sous les yeux. Dans la même veine, on a Le Monde Perdu, je pense. Moriarty, c'est ça. J'irai dans la même veine, quand je dis même veine, parce qu'on va faire Jules Verne, Sherlock Holmes et puis Bram Stoker, mais un peu dans cette idée-là. Là, on est plus dans le Jules Verne, enfin avec Le Monde Perdu de Conan Doyle.
C'est la pure aventure pulp, en fait, c'est un peu pulp, hein, les aventures du professeur Armitage, pardon. Professeur, mince, je ne me rappelle plus son nom, Challenger.
Voilà. Challenger, pardon,
c'est noté. C'est Jones de Conan Doyle, en fait, voilà, c'est un personnage un peu extravagant qui est accompagné toujours d'un acolyte, je sais plus qui s'appelle. Il a un autre nom, je m'en rappelle plus. Et voilà, c'est une sorte d'Indiana Jones du 19e siècle, pour moi. Hein,
Moi qui m'y connais pas, hein, et j'ai jamais honte de pas connaître des choses, c'est donc c'est une suite, il y a plusieurs.
Il y a plein de petites histoires, parce qu'en fait, moi j'ai le gros livre de Conan Doyle avec Le Monde Perdu et d'autres aventures du. Professeur Challenger, en fait. Ça s'appelle les exploits du professeur Challenger. Et donc c'est
génial, ça.
Donc ça peut servir
c'est de l'aventure, c'est voilà, c'est.
Ouais, voilà, c'est une aventure un peu fantastique, mais c'est pas mal.
Alors, qu'est-ce qu'il y aurait d'autre dans la même veine, dans nos inspirations?
Ah, c'est tout ce qui est bureau, Tarzan, John Carter, d'ailleurs, qui a été récemment adapté au cinéma par Disney, là. Mais on est dans cette époque, hein. on est vraiment fin du 20e siècle. Donc.
Ouais.
Et là, ça montre encore moi j'avais oublié avant de parler de ce podcast de tout le potentiel de cette époque. J'étais resté sur Sherlock Holmes et en relisant toutes ces inspirations, en les regardant, c'est vrai qu'il y a une richesse de possibilités de scénario qui est énorme. Hein. Et ça a été une époque, à mon avis, assez riche d'ailleurs en termes de littérature.
Parce qu'en plus, là, on ne fait qu'un pan. Je ne sais pas, Moriarty, toi dans la liste qui a été mise, est-ce qu'il y en a d'autres qui sont dans la veine, je dirais, découvreurs et aventures? Parce qu'on a Le Monde Perdu, Tarzan. Le cycle de Mars, je sais pas trop. Le
cycle de Mars, c'est John Carter, ouais, c'est plus de la science-fiction. Enfin, pour moi, c'est de la science-fiction un peu. C'est John Carter, un soldat de la guerre sécession, qui se retrouve balancé sur Mars et il découvre une population extraterrestre très fantasy, en fait. Et en D'accord. fait, quand il arrive sur Mars et il est beaucoup plus fort que sur Terre. Donc, ça fait une sorte de super-héros. Il y a un peu le libérateur de, voilà.
Il saute à 25 mètres.
Par contre, peut-être que la machine à explorer le temps là, de H.G. Wells, c'est plus dans cette veine-là des découvreurs. Et,
Ouais.
Je sais que ça a été adapté en film. Il y a quelqu'un qui l'avait noté. Je ne sais pas si c'est, on en reparlera. C'était pas mal comme film ou pas?
Il y a eu plusieurs époques. Et, c'est regardable. C'est pas,
d'accord.
C'est honnête. Voilà.
Ouais. D'accord, parce que là, on a fait le tour un peu côté explorateur ou point de vue roman. Vous avez des idées?
Il y a d'autres choses, comme le livre qui a inspiré Voyage au bout de l'enfer. Je ne me rappelle plus, je crois, comment s'appelle ce livre. En fait, c'est un livre qui se passe... En fait, le film Apocalypse Now, pardon, c'est basé sur un bouquin qui, je ne me rappelle plus comment ça s'appelle, je n'arrive pas à réussir à retrouver la source. Et en fait, dans ce bouquin, en fait, c'est un explorateur, mais ça se passe en Afrique, en fait, qui recherche un officier britannique, je crois, qui est dans le concept du film, en fait. Et je m'en rappelle plus.
Qui va le chercher au fin fond de la forêt.
C'est
et le mec
au cœur des ténèbres de Joseph Conrad, c'est ça.
Exactement.
Je rajoute alors.
Apocalypse Now. Et qui a rien à voir avec Apocalypse Now, parce que ça se passe pas du tout pendant la guerre.
D'accord. Ah bah c'est intéressant. Je mets au cœur des ténèbres de qui tu me dis?
Donc de Joseph Conrad. D'ailleurs, il y a une superbe illustration de la couverture sur Wikipédia qui est vraiment sympa.
Donc là, on a fait un peu le tour. Donc c'est le premier pan et ça fait déjà 20 minutes. Donc on va passer rapidement au deuxième pan. Et bon, ben voilà, Moriarty, on va arriver à ton pan de prédilection. Donc il y a aussi toute la partie, je dirais tout le pan Sherlock Holmes.
Enquête.
Voilà, donc là, un des mythes de l'enquête. Comment tu décrirais le style Sherlock Holmes au niveau lecture? Tu dirais que c'est quoi comme style?
Comme style, c'est, je sais pas, que je vois pas trop ce que tu veux me dire, mais.
En fait, ce que je veux dire, c'est que c'est quand même, c'est de l'enquête, mais c'est quand même teinté d'une certaine, je dirais, vie de tous les jours, avec les petites mains de Sherlock Holmes, des choses comme ça.
Ça montre aussi qui est ce personnage de Sherlock Holmes. En fait, au travers des bouquins, au-delà des enquêtes, on apprend un peu à le connaître, savoir qui il est, par l'intermédiaire donc de Watson, qui
son
est son fidèle acolyte.
Mais c'est vrai que c'est assez marrant. Je sais pas si c'est un trait de l'époque, mais il y a souvent des héros avec leur acolyte. Enfin, avec toujours pas à faire valoir, mais un peu dans l'idée, quoi. Ouais. T'as toujours le héros et son bras droit, quoi.
Oui, voilà, c'est une espèce de bonne conscience ou de pendant positif, parce que Sherlock Holmes n'est pas un personnage positif pour moi, c'est un personnage un peu sombre.
D'accord.
Il a une addiction pour la cocaïne, il est très caractériel, il a toujours raison, c'est quelqu'un de très.
Antipathique quasiment.
Antipathique, plutôt irritant, on va dire. Voilà. Il a toujours,
d'accord.
Il est toujours. Il veut toujours avoir raison et en fait, il se montre comme quelqu'un de très intelligent aussi, qui est au-delà
supérieur. Supérieur. Mais je pense que pour Sherlock Holmes, c'était indispensable d'avoir un faire-valoir, ne serait-ce que pour l'intérêt littéraire. Parce que si on avait été avec un narrateur comme Sherlock qui aurait raconté ses histoires,
ça, okay, ouais.
Ouais, ça aurait eu aucun intérêt parce qu'on aurait peut-être, il n'y aurait pas eu cet instant de révélation.
Puis on se serait pas mis à la place, parce que le but c'était pas qu'on se mette à la place de Sherlock Holmes, mais plutôt qu'on se mette à la place de Watson en se disant.
Essayer de démêler, voilà, exactement. Donc ça n'aurait pas été possible en tout cas, je pense.
Et alors, de ton côté, Moriarty, comment tu verrais l'exploitation d'un point de vue, je dirais, jeu de rôle, comment. Au-delà de l'ambiance et de ce que ça décrit de l'époque, tu verrais comment l'exploitation en jeu de rôle des romans, enfin de Sherlock Holmes. Parce que je suis en train de réfléchir, parce que les énigmes, bon, si quelqu'un les a lues, c'est mort. Par contre, il y a toute la constitution, je dirais, de ces...
Tu peux t'inspirer des enquêtes de Sherlock Holmes si tes joueurs ne connaissent pas du tout Sherlock Holmes. C'est plutôt...
C'est assez régulier, d'ailleurs.
Oui, après, ça dépend, ouais, les gens, s'ils ont lu ou pas. Moi, j'ai un de mes joueurs qui connaît très bien Sherlock Holmes, je pourrais pas lui faire du tout ce genre d'aventure, donc c'est pas possible. Donc, non, faut, après, oui.
Et pourquoi pas, d'ailleurs, tiens, je réfléchis en même temps. Le fait d'avoir un mec qui connaisse très bien Sherlock Holmes, donc a le coup d'avance par rapport aux autres. Il pourrait justement jouer le détective insupportable, supérieur. Et je pense qu'en termes de roleplay, ça serait assez intéressant.
Qu'est-ce que t'en penses, Moriarty ?
Qu'un joueur joue Sherlock Holmes.
Enfin, comme il sait, finalement, comme il a déjà lu Sherlock Holmes, il connaît les intrigues, donc il aurait toujours un petit coup d'avance et il serait censé emmener les autres, limite, en les prenant de haut, quoi.
Ouais. Oui, bien sûr, oui, ça peut être une idée, mais après, il connaîtra vraiment la fin de l'histoire aussi, donc...
Alors, par contre, ouais, c'est ça, il faudrait quand même réussir à faire des twists...
Ouais, exactement.
L'idée, c'est à la rigueur, de faire un détective conseil comme Holmes, mais pas faire voilà, de faire des personnages un peu peut-être qui vivent un peu dans l'ombre de Holmes, par exemple un détective conseil qui essaie de rivaliser avec Holmes, ça peut être une bonne idée par exemple.
D'ailleurs, personne n'avait fait jouer ce scénario de Gaslight qui est dans la boîte de base où on jouait justement des acolytes de Holmes, on travaillait pour lui, il n'y en avait pas un comme ceci.
Ah, je m'en rappelle plus.
Ça dit quelque tellement... chose.
Il me semble que c'est un. Ça doit être le premier ou le deuxième, je crois.
De Gaslight.
Ouais.
Ah ouais
ça, en parlant de ça, je pense à quelque chose. Là, je vous conseille une dessinée qui s'appelle Holmes. Tout simplement.
Une bande dessinée.
Qui s'appelle Holmes.
Ouais.
En fait, c'est Watson qui. Holmes disparaît. Il disparaît ou il meurt, je ne sais plus exactement. Et en fait, Watson enquête sur sa disparition et se rend compte en fait, que certaines choses qu'a dit Holmes sur sa vie, sur Moriarty, etc., sont complètement fausses en fait. C'est un calculateur. Et c'est une excellente BD que je conseille.
Ah, c'est bon ça, attends, je vais rajouter dans les Inspi BD.
J'ai oublié.
Et les 4 de Baker Street aussi, d'ailleurs, qui a été adapté en jeu de rôle il n'y a pas très longtemps. Ça vous dit quelque chose, ça ou pas ?
Ouais.
Et puis le dessin de Holmes, c'est superbe.
Et ben, il y en a un paquet. Ah, attends, je suis en train de regarder, mais j'ai. Ah oui, tout à fait, une chronologie des affaires. Les horreurs du Yorkshire. Voilà,
c'est ça, exactement. Je l'ai récupéré en même temps.
C'est une longue aventure. Donc là, l'intérêt, c'est plutôt l'enquête. De toute façon, on va en reparler parce que dans les séries, il y a la fameuse série Sherlock. Mais je dirais que ça demande un petit peu. C'est un petit peu comme, je dirais, comme dans la veine Nightmare Agency, à mon avis, ça s'agence. Et l'intérêt, c'est. D'ailleurs, c'est porté par pas mal de recueils comme Les Sacrements du Mal. L'intérêt, à mon avis, c'est de monter un peu une petite équipe que l'on voit progresser, que l'on voit se faire piéger. Alors, limite, mais bon, là, c'est un peu facile, mais avec un ennemi récurrent, peut-être.
Oui, c'est dans l'esprit de Sherlock Holmes, ça c'est sûr.
Il s'enfuit à chaque fois.
en plus, au 19e siècle, il y avait beaucoup de clubs de gentlemen, donc ce qui peut faire une bonne idée de regroupement de joueurs, en fait, de personnages en fait. Club de gentlemen de Londres, voilà.
Qui sont garçons. Là où ils vont fumer et discuter entre hommes, ouais c'est vrai. C'est une très bonne idée, ça. Donc, et puis on a un peu, je dirais. Ce que j'appellerais un mélange des deux, parce que quand on prend Dracula de Bram Stoker ou des Frankenstein de Mary Shelley, moi je trouve que c'est un peu le mélange des deux, c'est-à-dire qu'il y a le côté aventure quand même dans Dracula, parce que on suit machin, comment il s'appelle, Archer là.
Jonathan Harker.
Bien joué. Alors, moi je vous conseille, hein, je lis très lentement et je lis très peu. Je suis complètement inculte, comme diraient les autres imbéciles de l'élite branlette rôliste, là. Mais par contre, j'ai lu Dracula de Bram Stoker et c'est super bien. Franchement, ça se lit, mais très rapidement, et c'est super bien écrit. Et alors après, vous faites le film, hein, parce que c'est le film est vraiment super, super bien inspiré de Coppola, là, il est super inspiré. Et il y a un mélange de... De toute façon, il y a plusieurs scénars qui se passent un peu dans ce style-là, en Transylvanie et tout. Donc, là, c'est un peu le mélange de la découverte d'aller dans un endroit un peu genre. Ça fait penser à Jean-Marie Bigard, c'est l'endroit où tu vas jamais, quoi. Genre, séparons-nous en deux groupes de deux, tu sais. Voilà, tu vas jamais passer tes vacances en Transylvanie, surtout l'hiver quand il fait froid et tout, quoi. C'est n'importe quoi. Mais, donc, il y a le mélange de la découverte, mais aussi du mythe qui s'avère être plutôt plus ou moins réel. Et enfin, je sais pas si vous les avez lus.
Dracula,
j'ai pas lu. Dracula, c'est vraiment à lire. Hein. Franchement, alors, j'ai pas lu Frankenstein, moi.
J'ai lu les deux, moi, et c'est. Ouais, c'est très agréable à lire. Je préfère. D'ailleurs, je préfère personnellement, mais bon, ça c'est une affaire de goût, Dracula, parce que je trouve qu'il est plus fluide.
D'accord.
Et puis, j'aime bien ce côté. Vraiment, on est sur un road movie. Je trouve que c'est un peu précurseur. On est vraiment sur un road movie à l'ancienne, mais parce que ça voyage, hein, comme tu l'as dit. Hein, et ça, j'aime bien cette course contre la montre.
Parce qu'en plus, pour ceux qu'il faudrait encore, je dirais, pousser à le lire, il ne faut pas vous attendre à juste « Il va en Transylvanie et bisous ». Il va y avoir des voyages, il va y avoir des rebondissements. Et
secondaire très intéressant aussi.
Ouais. En plus, exactement. Ouais, non, c'est
une sorte de regroupement justement de gentlemen qui traque ce vampire Dracula jusqu'en Transylvanie.
Et puis Van Helsing, c'est quand même l'archétype même de l'investigateur.
Ouais.
C'est clair. Alors, ne pensez pas tous à Van Helsing, genre les derniers films où le mec il a des lance-pieds automatiques. Hein. Là, je crois que dans le film, il est joué par.
Anthony,
j'allais dire le science des animaux, c'est exactement ça. Et en plus, c'est qu'est-ce qui joue la nana? C'est la brune, là, qui est super mignonne.
Ça,
c'est
pas
que tu lises ça, monsieur. Hein. Bah oui, mais je sais plus. Enfin, non, le bouquin est vraiment très très bien à lire, puis c'est assez court finalement à lire. Et alors, si je complète les inspirations romans pour pas trop s'éloigner le truc, on a rajouté, absolument à lire les histoires extraordinaires et les nouvelles histoires extraordinaires d'Edgar Allan Poe.
Oui.
Alors ça, bon, c'est un classique.
On vient dans le sombre, en fait, et dans les enquêtes un peu fantastiques. Enfin, pas qu'enquêtes, mais dans les situations un peu fantastiques et très sombres.
Et puis c'est bien écrit, c'est assez... ça fait partie des standards. Un peu aussi comme le portrait de Dorian Gray.
Ouais. Alors dans les personnages restent très américains quand même. C'est pas ça se passe pas en Angleterre. Hein. Faut le préciser.
Mmh. Oui. Oui, tout à fait. Oui, parce que c'est vrai que c'est. Alors vous le verrez un peu si vous achetez les bouquins de Sans Détour. C'est vrai que 1890, c'est assez marrant. Autant les années 20, on s'imagine tout à fait New York. Autant 1890, c'est plutôt Londres, le Yorkshire, la brume, c'est plutôt la région autour de Londres pour une fois que le temps les dessert plutôt bien. On a quoi d'autre? On a. Tagadagada, je suis en train de regarder. Les nouvelles fantastiques de Guy de Maupassant.
Ah oui, c'est moi qui lui ai écrit ça. C'était, je pense, au Harlan en particulier.
Oui.
Alors pour plusieurs raisons, parce que c'est en Normandie, et tu sais qu'on doit toujours avoir une référence en Normandie quand on est ensemble.
Toujours. Hein, c'est obligatoire. Excuse-nous, mon artiste, hein, c'était pour l'instant normand.
Non, c'est super, le nouvel fantastique. Hein.
Ouais, et puis ça donne un petit.
Vas-y.
Ça donne un petit éclairage aussi sur en France, quoi. Le côté un peu arriéré de la France à cette époque-là. Quoi.
Ouais, et puis alors, moi, ce que j'aime bien, c'est que c'est ce côté un peu sombre, on sombre dans la folie. Ouais, alors ça, c'est totalement que tu lis, hein, c'est-à-dire que le narrateur, au fur et à mesure, fait plus ou moins un câble. Hein, donc, je trouve que globalement, c'est intéressant sur cette plongée en enfer de ce narrateur au fur et à mesure des pages. Rien que pour ça, ça vaut le coup. Hein.
Ah ouais, non, tout à fait. Et il y en a deux dernières, c'est peut-être toi qui les as notées, Moriarty, les voix d'Anubis.
Oui, alors les voix d'Anubis, ça c'est un livre que j'ai lu il y a très longtemps, qui m'est revenu à l'esprit en justement mettant toutes ces inspies sur le site. Et en fait, ça se passe à Londres, donc au 19e siècle, et c'est une histoire qui mélange voyage dans le temps, les rues sombres de Londres et le retour de l'ancien dieu égyptien. Donc tu vois, c'est.
Oh la vache!
Ça peut être bien, un ça. Truc.
T'aimes bien quand il y a un peu d'égyptien, toi.
Ah, moi j'aime bien, moi. Moi je suis fan.
Je me rappelle très bien de l'histoire complète, parce que c'est longtemps que je l'ai lu. Et mais c'est très, ça pourrait être très adapté en fait, vu le 1890.
D'accord. Et tu as mis ensuite, ouais. Il y a le roi en jaune.
Non, c'est pas moi ça.
C'est pas toi. Donc qui a été cité de Robert W. Chambers. Donc là on a fait un peu une liste parce qu'il faut qu'on avance quand même parce qu'on a fait que les romans, mais ça sera plus rapide pour le reste. Donc pour faire plus rapide, on va partir directement sur les inspirations de séries. Donc bah, c'est assez simple en réalité. Vous en avez quatre principales. Il faut absolument les voir. Il y a Sherlock. Sherlock, c'est on en a déjà parlé dans les podcasts, donc voilà, un des maîtres des séries britanniques. Le mec, enfin voilà, c'est génial. Je pense qu'on est tous les trois d'accord.
Ouais, tout à fait.
Les acteurs sont super bien trouvés. Holmes, il est maintenant super connu parce qu'il a beaucoup de rôles. Celui qui joue Watson, c'est Bilbo.
Bilbo le
Hobbit. Et puis, alors, bon, on vous dévoile pas les autres acteurs, mais franchement, c'est du caviar. C'est à notre époque, attention. Mais ça vous donne ce que disait Moriarty, ce que tu disais, c'était une vraie idée du personnage.
Oui, parce qu'en fait, la série Sherlock, excuse-moi de te couper.
Ah, mais non, mais vas-y.
Sherlock, la série, c'est exactement les bouquins les bouquins de Sherlock Holmes, hein, réadaptés au monde contemporain. C'est-à-dire que c'est exactement les livres des histoires de Sherlock Holmes.
Avec les différents, enfin les, comment ça s'appelle, la chaîne
Baskerville, il y a...
Voilà, la chaîne de Baskerville, il est génial en plus, putain, cet épisode-là, il m'a fait flipper.
Toutes les histoires sont...
Ouais, mais t'es facilement influençable, toi.
Excuse-nous, Moriarty, tu disais toutes les histoires.
Toutes les histoires sont adaptées des romans, en fait. Et sauf que c'est transposé dans le monde contemporain avec des choses qui sont complètement contemporaines, notamment quand, par exemple, il consulte, rien qu'en regardant le téléphone portable de Watson, il arrive à dire qui il est.
En plus, c'est vachement bien fait, c'est ouais. Très bien monté, je trouve. En tout cas,
c'est quand il regarde sa montre, en fait, par exemple.
Ah, parce que moi, j'ai pas beaucoup lu de Sherlock Holmes, mais rien de savoir ça, en plus, ça donne encore plus d'intérêt à la série, quoi.
Les choses bien, je trouve, par rapport à ça.
Il y a quoi? Il y a deux saisons de 6 épisodes ou de 3 épisodes, je crois.
Normalement, j'ai regardé que la première saison.
Je crois qu'il y a deux saisons de 3 épisodes, je crois. Mais c'est des épisodes qui font 1h30 ou un truc comme ça. C'est ouais, vraiment. C'est
format britannique de série. Ouais.
Mais c'est vraiment génial. Donc il y a celle-là. Il y a Reaper Street, je sais pas si vous connaissez.
Entendu parler.
Très, 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 très bien. Très, 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 très bien. Et on en est à la deuxième saison. Ça se passe après. Alors, tu me diras, je suis complètement con parce que Jack l'Éventreur, c'était à quelle époque? C'était les années 20?
Non, c'est bon.
Putain, c'est là. Ah bah super. Bon, alors ça tombe pile poil. Donc là, Reaper Street, comme le nom l'indique, Reaper Street, Reaper. Donc Jack the Reaper, Jack l'Éventreur. Il y a le. En réalité, ça se passe juste après la résolution de l'affaire, sachant qu'on ne sait pas trop si elle est résolue. Et on suit quelqu'un qui aurait suivi. Enfin, c'est un peu confus. Le fait est qu'on suit dans la Londres un peu crade, des allées un peu glauques. De la middle class et tout, des usines et tout ça. On suit un enquêteur qui a monté une petite équipe avec. Enfin, vous le verrez, je peux pas tout vous dévoiler parce qu'il faut les découvrir, mais avec des personnages haut en couleur. C'est très très bien joué. Il y a notamment le mec qui joue le type dans le trône de fer, celui qui est avec le nain Bronn. Voilà, celui qui se met avec le. Qui a un pur faciès. Reaper Street, une excellente série, je crois que c'est en 8 épisodes par saison ou 10. Et ça, c'est long aussi. Génial.
Ça se passe dans l'ère contemporaine ou
Non, ça se passe à l'époque. Ça se passe vraiment à l'époque. C'est crade, c'est en costume, c'est. Puis c'est. Voilà, c'est la drogue, c'est les prostituées, c'est. Enfin, c'est crade, quoi. C'est les mômes qu'on met dans des orphelinats, machin, qu'on balade, qu'on sacrifie, qu'on vend, les mecs qu'on retrouve dans les ports. Enfin, voilà, c'est sympa, quoi. C'est cool. Moi, j'aime bien. On a eu aussi un conseil, et sur ce même conseil, Fox, l'enquêteur de l'impossible, a testé les enquêtes de Murdoch.
Oui, j'ai osé, hein, parce que c'est sur France 3 quand même.
Hein. Oui. Alors.
Eh ben, effectivement, j'ai regardé les deux dernières semaines pour me mettre un peu dans l'ambiance et pour préparer ce podcast. Et honnêtement, alors ça se passe pas à Londres, ça se passe à Toronto. Moi, je vois pas la différence. Hein, je suis pas assez spécialiste. Et j'ai trouvé ça assez intéressant. Alors d'une part, bon, c'est sympathique. On n'est pas dans la grande série, mais c'est assez attachant déjà les personnages.
C'est déjà un bon point.
Ouais, sont assez bien joués. Et ce que j'ai bien aimé, c'est que cette série, même si elle se passe dans les années 1890, il y a un côté un peu moderne assumé. C'est-à-dire que on sent bien qu'on n'a pas que des spécialistes historiques qui vont respecter les délais qu'on pourrait rencontrer sur ce genre de choses. Et ça donne un petit cachet de modernité sur les enquêtes, qui est assez sympa, sur le développement des photos, sur l'utilisation de certains gadgets. Ça donne un petit côté moderne qui moi, m'a permis de me dire, franchement, si je jouais dans cette époque...
Tu jouais comme ça, ouais.
Ouais, voilà, j'aurais pas peur de faire des petits anachronismes qui pourraient sembler préjudiciables, mais parce que ça donne plutôt un intérêt sur la vitesse du jeu. Hein. L'exemple que je disais tout à l'heure, c'est... Ouais. Par exemple, des recherches, ils font des recherches avec les empreintes et ils mettent 10 minutes à trouver s'il est dans leur base de fichiers, ce qui est effectivement impossible. Mais bon, voilà, le jet de toc est réussi, puis c'est calmé, quoi. Hein, voilà, hein, donc, voilà, moi, ça m'a permis de me dire si vraiment je voulais trouver le rythme à imposer sur ce style d'époque, c'est là que je trouve. En plus, il y a une protagoniste féminine qui est assez bien jouée et qui permet aussi d'envisager la manière dont on pourrait aborder le rôle d'une femme.
Facile, ouais.
Voilà, au-delà des codes qui sont ceux de cette époque. Donc, je pense que c'est intéressant.
Oui, Moriarty ?
Il est encore plus limité que dans les années 20, le rôle de la femme
du
siècle est très strict.
En plus.
Et là, dans la série, la femme est médecin.
Et alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on verra, on va rapidement passer sur les films après, mais voilà, il y a des films qui, on verra, après, c'est chacun fait ses choix, mais qui se sont permis plus de liberté. Quand on pense au dernier Sherlock Holmes et tout ça, où là, c'est vraiment du pur gadget, enfin, c'est go-go gadget au truc. Mais là, ça reste, je dirais, ça porte l'histoire, ce que tu dis, donc
voilà,
c'est intéressant,
exactement.
Quoi.
On se sent dans l'époque, et pour autant, il n'y a pas d'extravagance, d'incohérence.
Déconnante, quoi. Ouais. Voilà. Et la dernière que je noterai là-dedans, c'est chez Maupassant. Donc, c'est les adaptations des nouvelles de Maupassant. C'est une série qui est passée sur France 2, je crois. Donc, avec des acteurs français, des cascades françaises. Donc, faut pas déconner parce qu'on commence à faire des trucs sympas. Mais voilà, ça reprend les romans de Maupassant que je n'ai pas lus. Donc, forcément, je ne pourrais pas vous donner. Mais s'il y en a un qui, comme tu disais, Fox reprend le Horla, ça peut être assez sympa, quoi, de garder cette chose-là. On va vite passer sur les inspirations BD, parce qu'on finira par les films. Donc au niveau des BD, on a ce que tu nous as cité, Moriarty, donc Holmes. Il y a aussi, tu nous as dit, les 4 de Baker Street, c'est ça ?
Non, c'est pas moi, mais je connais cette série.
Ouais, c'était moi, ouais. C'est une BD française. C'est une série qui a été à l'image de ce qui avait été fait à une époque avec certaines BD, a fait l'objet d'une adaptation de jeu de rôle, hein, où on joue des gamins qui sont des aides de Sherlock Holmes, hein, et donc ils vont l'aider dans ses enquêtes.
D'accord. Donc c'est assez, ouais, c'est sympa, parce que ouais, pour ceux qui n'ont pas eu Sherlock Holmes, c'est vrai qu'il est toujours censé être aidé par des gamins des rues qui payent pour retrouver des renseignements, et c'est comme ça, c'est ce qui lui permet de retrouver très très vite des traces. Après,
ça permet de jouer ses indices, voilà, et puis ces petits gamins qui permettent de poursuivre l'enquête.
Alors on a aussi le fameux, parce qu'après on l'aura en film, le fameux From Hell d'Alan Moore et d'Eddie Campbell, n'est-ce pas, Fox ?
Oui, très bonne. Pour moi, une des meilleures BD d'Alan Moore, qui retrace vraiment bien, de manière vraiment très très documentée, toute l'affaire de Jacques Léventreur, avec cet aspect un peu conspiration autour de la reine Victoria, qui donne un côté très très glauque, hein, à cette histoire. Et bien, voilà, là, pour moi, c'est vraiment, je pense, une BD qui permet vraiment de se faire... une idée de ce qu'était cette affaire, avec cette petite histoire conspirationniste, ouais, c'est du pur produit, je pense que alors là on a vraiment des idées
crues.
Et puis bon, après on aime Alan Moore, on n'aime pas, mais justement là je trouve que le fait qu'il soit vraiment sur une base documentaire quand même vachement plus construite, je sais pas si toi tu l'as vu, hein, Moriarty, je crois que tu l'as vu aussi, ça empêche les défauts qu'on peut rencontrer régulièrement chez lui, je trouve.
Qu'est-ce que t'en penses, Moriarty?
Sur le fond de cette BD.
Ouais, sur From Hell, ouais.
Moi déjà, pour la BD que j'ai découverte, c'est pour tout le dessin qui m'a beaucoup plu. Côté un peu, justement, très simple, mais à la fois très détaillé, en fait. Je sais pas comment expliquer ça, mais c'est noir et blanc. Et les dessins décrivent bien les rues de Londres, les côtés sombres des rues de Londres. Ça permet d'avoir des bons visuels pour s'inspirer.
Ça porte vraiment le truc, quoi. Ouais, finalement, le côté noir et blanc.
Le personnage d'un spectateur, je trouve excellent. C'est un Pioman. J'aime bien les personnages sombres, en fait. J'aime bien les personnages qui ont des faiblesses, en fait. Je trouve que c'est très bien.
D'accord. Donc, et toi, t'en as mis d'autres aussi. C'était West.
Alors West, oui, bon, là c'est le Far West, enfin c'est la fin du Far West, donc c'est pas vraiment 1890 parce que ça se passe en 1900, voilà, allez.
Ouais, ça va, allez, on te l'accorde.
Non, mais en fait, il y a une conspiration avec des occultistes qui veulent, pendant l'exposition universelle, tuer le président des États-Unis. Donc ça fait très ambiance conspirationniste dans un univers Far West. Ouais. Voilà, donc. Pour le groupe de personnages qui sont regroupés dans une officine secrète. C'est presque du Delta Green 1890, quoi.
Ouais, voilà, ça peut donner une idée, ouais, tout à fait. C'est bon. Ça va faire plaisir à plein ce noir, ça. Mais c'est vrai que c'est une bonne idée, ce côté. Voilà, ça, on vous a déjà donné 2-3 idées de comment monter une équipe finalement à cette époque-là. Voilà. On a aussi, en parlant d'équipe, la Ligue des Gentlemen Extraordinaires d'Alan Moore aussi.
Oui, très bonne BD. Film catastrophique.
c'est peu dire.
Du coup, alors, ils ont rajouté le personnage de Tom Sawyer pour justifier qu'il y a un peu d'acharitien dans l'histoire, donc c'était très
intéressant. C'est très logique en plus, c'est très logique.
Et alors, moi, je vais terminer par mon petit chouchou. De. Attendez, alors que je me trompe pas, le Bonin, Cyril Bonin, au niveau des dessins, et de Roger Seiter, donc c'est du français, c'est Fog. Cette BD est géniale. Cette BD est. Alors là, moi je la conseille, franchement, les yeux fermés. Il doit y avoir 6 ou 5 ou 6 tomes, ou un truc comme ça. Donc ce sont des enquêtes que l'on suit. C'est surtout le dessin. Le dessin est très particulier, donc tout le monde n'aimera pas. Mais franchement, commencez à le lire, lisez quelques planches. Moi, je les ai achetés aussitôt, quoi. En plus, ils étaient sortis à l'époque en intégrale, en plus petit format, là, en sorte de. Pas italien, mais en A4, je crois. Non, pardon, A4, c'est plus grand. Non, A5, alors. en demi-format. Et franchement, Fogg, c'est génial. C'est des pures idées. C'est le dessin, c'est ce que tu disais, Moriarty, c'est que là, c'est de la couleur, mais c'est très beige, c'est très sépia. Les visages, voilà, sont ternes. Les gens sont toujours pâles. Puis il y a une femme, il y a pas mal de héros. Oui.
C'est franchement. Après, c'est des pâles, c'est parce que c'est des Anglais, c'est normal.
Voilà. En plus, ils sont habitués à vivre comme ça, sans le soleil.
Non, mais je regarde un petit peu là, le dessin sur Google, là, et c'est vrai que le dessin me plaît beaucoup.
Ah, mais donc, si le dessin te plaît, t'as 90% qui est fait. Parce que, en plus, les enquêtes sont plutôt sympas, c'est très très mélange. Ce qu'il y avait beaucoup à l'époque, mélange haute société, basse société, la haute société, finalement, qui se veut humble, hein, qui est aussi dépravée, et qui a besoin des mêmes drogues que la basse société, et qui est obligée d'aller se fourvoyer dans des quartiers glauques pour s'en procurer, des choses comme ça, quoi.
Oui, c'est vrai qu'aussi les années 1890, c'est très, il y a beaucoup de différences de classe, de société, sont encore plus que dans les années 20, je trouve.
Oui.
Très sectorisé, on va dire, par classe, c'est-à-dire que la haute société ne côtoie pas la lie des.
Ah, on se parle pas, quoi.
Voilà, c'est très. Il
y a vraiment un gouffre, et puis autant il y a une séparation dans les années 20, mais on essaie de la raboter, autant là, la séparation est assumée, et finalement, en y regardant de plus près, la haute société est souvent plus dépravée, parce qu'elle a les moyens, et plus dépravée finalement que la basse société, qui c'est juste de survivre, et qui sont plutôt des gens sains, mais qui vivent dans la misère, quoi. C'est la haute société qui est un peu dans les excès, dans le luxe, le stupre. Bah, cool. Ça fait des idées de scénar. Cela, je vous raconte pas comment j'ai le poil hérissé, parce que ça me fait tout de suite penser au sacrement du mal qui est. Bon, je vais pas en parler maintenant, on a dit qu'on faisait ça dans l'ordre. Mais si vous n'avez pas encore acheté le sacrement du mal, vous avez jusqu'à la fin de ce podcast pour le commander. Je sais pas où, mais démerdez-vous. Donc on va finir par les dernières inspirations, messieurs. À moins que vous en ayez à rajouter en BD, non ?
Moi, c'est
bon. Ça se
good ? Il doit y en avoir d'autres, mais bon, après.
Ouais, puis on en discutera dans les forums, faut pas hésiter. Donc les films. Donc là, il y en a un paxon. Je sais pas si. Enfin, moi, j'en ai pas mis des masses. Donc bon, on va faire dans le plus simple. On va dire un peu les bouses. Donc on va avoir la Ligue des Gentlemen Extraordinaires, qui est franchement pas une réussite. Mais c'est pas là où ils foutent Venise sur des poteaux en marbre.
Si, genre, puis t'as le sous.
C'est relativement simple. je vais vous montrer comment j'ai gagné 593
dollars. Il y a ta pub,
Moriarty. On regarde ça.
Je vous dis, il y a Moriarty qui va nous donner une astuce pour gagner 590 euros.
Les top classes. Désolé, je n'arrive pas à enlever cette saloperie.
C'est les sales pubs. Donc on est d'accord, la Ligue des Gentlemen Extraordinaires, c'était une erreur. En film.
Film, oui, c'est une erreur. C'est...
c'est ça, hein, c'est bien, je me trompe pas, c'est bien Venise qui est sur des poteaux en marbre.
Je me rappelle plus trop. Parce...
des arches, il y a des arches, je crois.
Non, mais c'est surtout sur les personnages, ils sont trop policés, enfin, ils sont trop, trop gentils. Alors, dans la bande dessinée, c'est vraiment des salopards, en fait. La Ligue des Gentlemen,
contraire. Ouais. C'est là où bah, il y a bien Alan Quaterman et tout ça. Tous les...
Alan Quaterman, il paraît, c'est un optimum.
C'est un badass.
C'est. Voilà, c'est des personnages beaucoup plus sombres que dans.
C'est intéressant, ouais, parce que en réalité, c'est un truc à bien mettre en compte, à se dire, cette époque-là, si on veut la différencier des années 20, c'est que les années 20, peut-être qu'ils sont racistes et tout, mais finalement, voilà, ils ont peut-être un bon fond, les découvreurs et machin, mais là, finalement, ils ont, dans tous ceux dont on a parlé, ils ont souvent un vice caché, une part d'ombre.
En tout cas, les inspirations qu'on a décrites, oui, c'est sûr que la plupart des personnages sont des personnages. En demi-teinte, on va dire, pas des voilà. Sous-tôt, gentils et beaux, en fait.
Bon, comme au truc un peu moisi, il y a Van Helsing.
Ouais, le film pourri.
Voilà, avec machin, avec Wolverine, là, je sais plus. C'est pas machin qui...
Si, c'est Hugh Jackman.
Ouais. C'est Hugh Jackman qui joue dans Le Pauvre, avec les nanas qui volent et tout, c'est n'importe quoi. Et ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre qui est pas terrible y a... Non, les autres, ils sont plutôt bien. Juste la machine à explorer le temps, c'est toi qui l'as vu, Fox, t'as dit que c'était sympa.
Oui, c'est la bonne reprise du roman d'H.G. Wells. Bon, c'est sympathique, hein, c'est pas un chef-d'œuvre, mais ça permet de travailler peut-être parce que comme son nom indique, on est sur une machine qui remonte le temps, donc on sera pas obligatoirement dans le pur gaslight, mais justement c'est cette interaction avec ces inventions en fait de cette époque qui sont censées être révolutionnaires, hein, d'ailleurs la preuve c'est toujours pas, et comment les gens voilà se projeter dans cet avenir, je trouve ça c'est sympa. Et puis bon, ça se regarde, voilà, c'est pas des
années. D'accord, on a C'était demain, c'est de toi ça, Moriarty, ou pas?
Non, c'est pas de moi, mais je connais, en fait c'est la machine à explorer dans le temps, en fait c'est la version 78 du roman de H.G. Wells.
D'accord.
Donc c'est la même histoire, c'est le voyage dans le temps, voilà, sauf qu'il se retrouve dans les années 70. Donc ça doit être un peu plus folklorique, je pense, je sais pas, c'est moi je me rappelle un petit peu de ce film mais pas beaucoup.
Il poursuit Jack l'Éventreur, si mes souvenirs sont bons.
Oui, voilà. Je pensais que Jack l'Éventreur dans les années 70. Donc
voilà.
Alors vous deux qui avez bien aimé la BD, l'adaptation en film d'Alan Hughes, qu'est-ce que vous en avez pensé?
La BD de...
Le From Hell. Je sais pas, vous avez vu l'adaptation en film?
J'ai bien aimé le film.
D'accord. Johnny Depp.
La vision est très sombre aussi. Enfin, il montre un Londres complètement glauque et déliquescent. Et un tueur sans visage, enfin, du moins tout le long du début du film, qui est assez frissonnant comme personnage, en fait. Enfin,
puis j'aime bien le perso de machin...
Dizardram,
tu dis? Non, le perso de l'acteur masculin. Je l'ai
dit pas.
Voilà, Johnny Depp qui est pas mal avec son côté drogué, machin, qui finalement essaie de s'ouvrir d'autres portes de conscience par la drogue et tout pour essayer de résoudre. Enfin, j'avais assez bien aimé, j'avais trouvé ça assez étrange, assez particulier. Donc on a quoi d'autre? On a A Christmas Carol. De Robert Zemeckis.
Non, ça je connais pas.
On a les deux Sherlock Holmes. Bah là, on en parlait de Guy Ritchie, donc avec je sais plus avec Iron Man et puis c'est nul. Les références moisies avec Iron Man et puis je sais plus qui.
C'est pas bienvenue.
Voilà, et puis bienvenue à la Gattaca, non, c'est pas ça. Voilà. Alors qu'est-ce que vous avez? Moi, j'ai bien aimé. J'ai trouvé ça un peu excessif par moment, un peu trop excentrique. Je trouve que Robert Downey Jr., il devait revenir de cure de désintox parce qu'il était un peu speed. Je sais pas ce que vous en avez pensé, vous deux.
Bah, surtout que Sherlock Holmes, ils ont fait un adepte des arts martiaux.
C'est pas, c'est vrai.
Pas inintéressant parce que c'est bien trouvé, mais c'est plus un film d'action qu'un film d'enquête.
C'est voilà. Vrai. C'est une des critiques que j'ai sur les derniers films, c'est que je trouve que tous les films récents dans cette époque sont sont des fois pas dans le ton. Voilà. Soit du méga gadget où tu sors de la manche une mitrailleuse à 150 coups minutes, ou ce genre de choses. Ouais, voilà.
C'est les mystères de l'Ouest.
Voilà, ouais, voilà, exactement. Voilà, c'est exactement ça. Ça fait plus penser aux mystères de l'Ouest. Que avec en plus, comme l'autre, il est un peu sous en fait là, Robert Downey Jr. Ça fait un peu penser à Will Smith avec son débit. Mais c'est vrai que c'est un peu ça, quoi. C'est... Et je trouve que l'ambiance. Alors, on va vite tomber dans les vrais classiques, enfin dans les vrais films qu'il faut voir. Alors, on va juste passer par Young Sherlock Holmes, déjà qui est un excellent film. Je sais pas si vous l'avez vu tous les deux.
C'est un très bon souvenir de ce film.
C'est un. Donc là, on suit finalement une version jeune de Sherlock Holmes avec un jeune Watson, je crois aussi, hein. Un petit gros, non, c'est pas ça qui court ouais. Avec lui.
C'est ça.
Ils sont dans Londres et il y a tout ça. Alors, bon, comme Fox, c'est un peu lâché le morceau, mais je peux pas vous dire vers quoi ça s'oriente un peu. Mais c'est dans Londres et il y a toute une intrigue. C'est très film d'aventure. C'est de Barry Levinson, 1985. Putain, je sais pas qu'elle s'est rempli ça, mais c'est vachement bien rempli avec toutes les dates et tout.
Ça moi.
Et donc là, en plus, la musique est super exploitable et l'ambiance est très sympa. Enfin, franchement, facile. Alors. L'exploitation, par contre, pour un jeu de rôle, pour un scénar, peut-être un peu plus délicat. On peut s'inspirer du scénario, mais là, enfin, vraiment, ce sont des jeunes, et puis c'est basé sur un peu par moments, les comiques de situation. Ils sont toujours au mauvais endroit, au mauvais moment, ils glissent, ils dérapent, ils passent par les choses, par les pièges, et puis ils arrivent au bon endroit, au bon moment. Enfin, c'est du Young Indiana Jones, c'est des trucs comme ça qui sont bien frais. Parce qu'après, on peut tomber dans le plus ambiance 1890 avec, par exemple, Elephant Man de David Lynch.
Une référence.
Où là, vous imaginez un peu un théâtre des horreurs mélangé avec un peu de violence en noir et blanc, le tout très très flouté dans mon souvenir.
Ah, disons que ce film-là, ça serait comme inspiration, ce serait plutôt le visuel de ce film, parce que l'histoire... après pourquoi pas tourner autour d'une foire de monstres, une histoire autour d'une foire de monstres avec un personnage accusé de tort alors que ça peut être quelqu'un d'autre qui fait ses méfaits par exemple.
Oh, super idée ça, de défendre finalement celui qui pourrait être pris pour le monstre.
Ouais, ou alors Elephant Man n'est pas vraiment un éléphant mais plutôt un poisson, on pourrait dire aussi un...
Ça aussi.
Alors, pour info, c'est un scénar qui existe, hein. Je crois que c'est dans les Contes de la Belle Biscatonique ça se passe dans une foire, effectivement.
C'est pas la foire des ténèbres ?
Possible, ouais.
Alors, la foire des ténèbres, je pense que c'est inspiré. Non, c'est dans un autre recueil, la foire des ténèbres. Je me demande si c'est pas. Ouais, mais je sais qu'il y en a un qui. Oui, ça me dit quelque chose, Fox, t'as raison. Et finalement, le côté enquête sur ce qu'on pourrait appeler une bête de foire et qui finalement se révèle être pas forcément ce qu'on croit. Donc là, bon, c'est de l'ambiance, puis c'est du David Lynch, donc préparez-vous à en prendre plein les yeux. Un très très bon.
La bande son. Ouais.
La bande son est géniale. On a aussi le Prestige, très très bon film de Christopher Nolan.
Oui, excellent.
Avec deux acteurs, un numéro de duettiste. Là, les acteurs sont vraiment super bien. Et puis il y a des petites touches où il rencontre, je crois, comment il s'appelle, Tesla, c'est ça, non ?
Ah oui, parce qu'il utilise sa magie avec...
Il y a un côté très... ça reprend plusieurs thèmes qu'on a pris. La musique est absolument géniale. L'ambiance est vraiment terrible. Alors après, ça tourne quand même autour... j'aime pas trop parler des films, mais ça tourne autour d'un thème. Donc c'est pas, vous baladez pas non plus dans les rues de Londres tout le temps, mais c'est bien d'époque, je trouve. On a quoi d'autre ? On a Wolfman.
Alors pour venir sur... c'est la Galerie des Horreurs.
La Galerie des Horreurs, d'accord. Ouais. Oui, il y a Maître Capel Fox qui va toujours chercher les trucs au fond de la cave.
Et en plus, il faut prendre la lampe, c'est un peu compliqué. il faudrait que tu ramasses les corps parce qu'on tape dedans à chaque fois.
Ça commence à sentir.
Exactement.
Wolfman, j'essaie de me savoir si vous l'avez vu, vous, Wolfman.
Oui, je l'ai vu, oui. Moi, je l'ai vu. Pareil, j'ai pas de grands souvenirs de ce film, parce que bon, j'en regarde tellement de films, je lis tellement de livres, tellement de films que des fois je me perds. Mais au niveau ambiance, film gothique dans l'esprit 1890, il n'y a rien de tel. Hein. C'est le loup-garou de Londres, mais Londres du 19e siècle. Voilà, c'est pour résumer, c'est ça en fait.
Ça me dit quelque chose, je pense.
C'est un lord anglais qui revient dans sa famille sa famille est, je crois qu'il y a une malédiction et en fait il y a un loup-garou bien sûr qui traîne dans le coin, et bien sûr, il mord le Lord Anglais qui va attendre.
Hasard.
Voilà, il se fait poursuivre. D'ailleurs, il se fait poursuivre par, un policier célèbre de l'univers de Sherlock Holmes, c'est Lestrade.
Ah voilà. Ce bon vieux Lestrade. Voilà. Ah putain, il, d'accord. Idée de scénar, ça. À l'époque de 1890, se faire mordre et finalement être pris d'une maladie un peu dégénérative et qui vous fait vous transformer. Bonne idée de scénar, ça. Alors j'ai rajouté Le Cavalier sans tête, c'est bien la bonne époque de Tim Burton.
Le Cavalier sans tête, c'est plutôt le siècle précédent. Hein. C'est plutôt le siècle précédent, c'est-à-dire
Le
18e siècle, je dirais.
On va laisser tomber. Alors on part sur Sweeney Todd.
Après, ça peut être une idée de fond. Hein. On peut reprendre Le Cavalier sans tête au 19e siècle. Hein. Pourquoi pas.
Non, c'est vrai, t'as raison, ça fait un peu vrai. Non, ça fait un peu plus
ancien. Le Cavalier sans tête, c'est plutôt lié au folklore américain que britannique.
Ouais, ouais.
Ouais, non, on va laisser tomber. Non, c'était mauvais ça. Alors on a par contre. Non, parce que je voyais ici Tim Burton, Sweeney Todd. Donc c'est encore du. Johnny Depp, ça, non?
Oui.
Mais avec. Quelqu'un l'a vu?
Non, moi j'ai pas vu ce film, par contre.
Fox?
Non plus.
D'accord, bon, bah t'as une heure, Fox. Non, je déconne. on a Gaslight de George Cukor.
Non, ça je connais pas non plus.
Ah ouais, vache, bah, Gaslight, je pense que ça devait être. Alors, nous on parle pas des trucs qu'on connaît pas, donc. Mais on vous les citera, on les cite comme ça, c'est pour The Woman in Black de James Watkins.
Non plus.
Avec Harry Potter du temps contre le. Typecasting. J'espère que je dis pas de conneries parce que je suis en train de lire le truc.
Exactement.
Et forcément, on va finir par le Dracula de Francis Ford Coppola. Il y a quelqu'un qui a mis avec l'insupportable Keanu Reeves. Non, je suis pas d'accord. C'est un artiste un peu bizarre au parcours atypique. Mais ma foi, quand il a pas trop à parler comme dans Matrix, il s'en sort plutôt pas mal. Non, Dracula, c'est surtout qu'il y a une pléiade d'acteurs autour. Il y a Winona Ryder qui joue Madame. Il y a le flic dans Léon là. Machin, comment il s'appelle, je sais plus. Qui joue le grand Dracula. Voilà, exactement. Qui joue super bien. Enfin, et ce qui est très très bon dans ce film, c'est ce que je dirais, c'est les montages et la composition visuelle
et la
qui va, qui vraiment accompagne la musique. C'est alors, des accélérations et des espèces de d'hyperboles, de trucs en surimpression. Et je crois qu'il avait repris Coppola des vieilles techniques.
Des vieilles techniques de l'époque.
C'est-à-dire de réutiliser la même pellicule pour remettre une deuxième couche et tout. Et enfin non, c'est un super film quoi. Moi j'ai, enfin c'est, en plus c'est une... ça fait une très très jolie affiche dans votre chambre, ça fait pas du tout peur aux enfants. Donc... Et en plus, ouais, de ce que je me rappelle du générique. Le premier générique que j'avais vu, c'était juste une pierre avec une espèce de gargouille en pierre dessus, et on voyait juste une espèce de mare de sang se glisser vers la gargouille. C'était absolument génial. Enfin tout est à garder là-dedans. Donc là, je pense qu'on a fait un peu le tour. Déjà, en plus, comme on peut le voir, ça fait déjà une heure qu'on tourne dessus. Donc, sur le thème, j'irai des inspirations et tout ça, je pense qu'on a fait un peu le tour. Donc, si vous n'avez pas de choses à rajouter, messieurs, je pense qu'on va tout de suite se précipiter vers le... Après une petite pause de notre sponsor. On aurait dû prendre comme sponsor EDF, EDF, GDF et tout. On vous doit plus que la lumière, ça aurait été génial pour Gaslight. Et donc on va faire une petite pause et on vous rejoint. Ben, peut-être là, vous, ça va prendre 3 semaines, le temps que je mette en ligne le prochain podcast, mais pour Gaslight, côté jeu de rôle. Donc, Funglouez les poulpes. Today we are canceling the apocalypse.